plateau. On s'en va rejoindre Lambert Drainville pour commenter en premier lieu le discours de Rocky François Legault. Lambert, comment ça va?
Bonjour messieurs, très content de vous retrouver.
Hey, nous autres aussi, on est super contents. Comment t'as trouvé notre Rocky hier? Il a fait 6 une couple de personnes?
Oui, c'est ça. On commence à avoir une petite idée de sa stratégie pour essayer de remonter dans les sondages d'ici, évidemment, à l'élection de 2026. Ce sera pas facile, mais
non.
Bon, comme on a vu, effectivement, là, il semble vouloir se battre. Les oppositions aussi, PSPP a repartagé un clip de quand il s'était présenté dans Provo il y a une couple d'années où ce que lui-même
Ah oui, avec le manteau et la tuque à la Rocky en train de courir dehors dans la neige.
Exact. Ruba Gazal aussi a repartagé. Fait qu'on sent que les oppositions, eux autres aussi, là, sentent la bête blessée, sentent le sang et sont prêtes également à en découdre. Disons que ça va brasser dans cette dernière année qui nous mène à l'élection du 5 octobre 2026. Et justement, dans son discours, on a pu, tu sais, c'était beaucoup de réchauffé. Il n'y en a pas beaucoup d'éléments nouveaux. Par contre, un élément qu'on retient, c'est que le premier ministre a clairement identifié qui vont être ses adversaires d'ici aux élections, en commençant par...
Monter au Québec. C'est...
Lambert, nous, on habite à Québec. Toi, tu as la chance d'habiter à Montréal. Est-ce que l'islam radical est un gros problème?
Est-ce que c'est un gros problème? C'est ça la question. Est-ce que c'est un problème? Ben, écoute, T'sais, on a entendu parler des prières de rue. Je pense que c'est un phénomène qui est de plus en plus... J'ai juste fait une petite recherche sur X avant de m'en venir sur le réseau social.
Ben oui, vas-y.
Des prières de rue. Puis on a quand même quelques exemples à Montréal dans les dernières semaines, derniers mois. Ben franchement, c'est un phénomène quand même qui prend de l'ampleur à la grandeur de la planète, là, de ce que ma petite recherche m'a permis de voir.
En effet, très présent sur le continent européen que j'ai vu.
Oui, exactement. Donc, on a ça qui fait de plus en plus parler. On a évidemment, là, quand le premier ministre s'est fait demander aujourd'hui à quoi il faisait référence explicitement, ben il a parlé évidemment de la situation à l'école Bedford.
Mm-hmm.
On se rappellera, tu avais, disons, un clan dominant de professeurs d'origine maghrébine qui humiliait certains élèves, refusait, par exemple, que les jeunes filles participent à des cours d'éducation physique. Le PM parle d'un assaut. Et ça, c'est quand même un mot lourd de sens. Le ministre Roberge en a rajouté il y a quelques heures.
Il a dit « Réveillez-vous! »
Oui, c'est ça. Il a dit aux Québécois de se réveiller. Et donc, la question, Jeff, c'est est-ce que le gouvernement, il va un peu fort en café en utilisant le mot « assaut » en fomentant un petit peu la peur là, pour gagner des points politiques, sans que c'est un terreau fertile, clairement, pour eux. D'ici aux élections. T'en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses qu'il y a un assaut?
Bien, moi, tantôt, justement, je me suis positionné avec Antonine Iaccarini, puis j'ai dit, je crois pas qu'on soit rendu à l'étape de l'assaut. Oui, il y a eu la situation Bedford. Oui, il y a eu, après ça, 4 autres écoles qu'on a regardées dans la région de Montréal. Mais je pense que juste le fait que la population soit sensibilisée, bien, il va y avoir de plus en plus de dénonciations. Et là, ça sera aux autorités à faire le travail s'il y a des discours haineux ou des discours qui vont à l'encontre de nos valeurs. C'est mon positionnement. Peut-être qu'il peut paraître faible pour certaines personnes, mais moi, je vais plus dans la bienveillance que de dire « OK, il y a un assaut, puis c'est nous contre l'islam ».
Ouais, je suis un petit peu à la même place. Tu sais, il y avait le rapport des vérifications des mesures prévues à la loi de la laïcité qui avait été commandé par le ministre Drainville quand il était ministre de l'Éducation, qui était sorti en janvier 2025, au fond, qui suivait le Bedford, qui faisait le tour des écoles dont tu viens de parler. Puis, tu sais, au-delà des exemples que j'ai déjà mentionnés au niveau des petites filles dans les cours d'éducation physique, bien, tu sais, tu avais des exemples d'écoles, d'ailleurs, dans la région de Québec, bien important de le mentionner, là, ça touchait des écoles dans la région de Québec, Lévis, Laval et Montréal. Ça se résume pas mal à ça, mais on parlait de voile intégrale en classe, autant de professeurs qui ne respectaient pas la loi sur la laïcité, qui gardaient leur voile en classe, ou des élèves entièrement couvertes dont on ne pouvait pas voir l'identité, le refus de parler à des enseignants masculins, l'éducation physique, j'en ai parlé, au niveau du refus de participer à des cours d'éduc, mais aussi des élèves qui participaient, oui, mais avec des habits traditionnels absolument pas conformes au code vestimentaire T-shirt, shorts, espadrilles. Il y a de l'autocensure aussi, qui est un exemple qui a fait jaser des profs qui refusent d'aborder certains sujets comme l'égalité homme-femme, la sexualité. Fait que tu sais, je suis d'accord avec toi, bref. Je suis pas sûr que c'est un assaut au point où on en est, mais si on juge que la laïcité est une valeur importante pour nous, et les plus récents chiffres parlent d'environ 70 % des Québécois pour qui c'est le cas, eh bien, moi, je suis d'accord qu'il ne faut pas attendre à ce que ce phénomène-là soit beaucoup plus grave,
ouais,
beaucoup
on se rejoint.
Plus répandu. Il faut agir maintenant, rectifier le tir maintenant. Il y a eu des rapports qui sont sortis. Je pense que le gouvernement est déjà en action. Et donc, est-ce que le gouvernement il va fort en café? Oui, je pense que le gouvernement il va fort en café. Mais comme j'ai dit en commençant, au point où ils en sont, ils vont tirer sur tout ce qui bouge parce qu'ils n'ont plus rien à perdre puis ils veulent essayer de remonter la pente.
Et parlant de tirer sur tout ce qui bouge, un crochet de droite à l'islam et là, on a sorti un crochet de gauche au syndicat.
Yes, sir, qui serait vraiment l'autre... disons, adversaire clairement identifié dans le discours d'hier. Le PM et Jean Boulay, son ministre du Travail, veut réformer le régime syndical. Évidemment, manque pas une occasion de parler des votes dans les assemblées syndicales qui se tiennent aux petites heures du matin.
Oui, puis dans ce que je sais, moi, c'est qu'il y a encore une couple de goons qui se promènent dans les assemblées pour faire en sorte que le vote aille du bon bord, là.
Bien, on a toujours un peu cette impression-là hein, quand on parle des syndicats, la FTQ, on mentionne évidemment toujours l'usage des cotisations syndicales pour des camions, pour des scotch, pour des repas très, très luxueux.
Dubaï.
Des voyages à Dubaï, même pour, écoute... contester des lois comme la loi 21, justement, sur la laïcité qui a été passée par l'Assemblée nationale de façon très démocratique et qui est généralement fait pas mal l'unanimité au Québec. Puis encore une fois, le premier ministre et le gouvernement sentent que c'est un terreau fertile pour eux de s'en prendre aux syndicats et un récent sondage du Conseil du patronat qui disait qu'une majorité de la population, 57 % plus spécifiquement, voulait soit moderniser ou renforcer les lois sur les relations de travail pour protéger les services à la population en cas de grève. Tu vois que c'est pas sorti d'un chapeau pourquoi les syndicats ont été identifiés par le gouvernement comme un endroit où ils peuvent marquer des points.
Lambert, est-ce que les syndicats ont eux-mêmes à blâmer en s'auto-proclamant un contre-pouvoir? T'sais, j'écoutais Magali Picard sur les ondes de Mario Dumont. Là. Ah, vous savez qui va combattre les grandes pétrolières si nous, la FTQ, on n'est pas à Dubaï? Il me semble que c'est se donner de l'importance pas à peu près, ça.
Ben moi, tu sais, puis en tout puis moi, Jeff, je trouve qu'ils ont perdu. Puis moi, je suis pro la mission. Première des syndicats, défendre les travailleurs, défendre les droits des travailleurs, mais entre toi et moi, on est bien loin. On a passé depuis longtemps l'étape tabarouette des gars dans les usines avec de la suie d'en face
qui sont
des esclaves là, de propriétaires anglophones. On est ailleurs, puis des fois, je trouve qu'ils sont rendus beaucoup plus pratiquement des partis politiques en soi, là, qui font de la politique, qui disaient lors de leur sortie dimanche, tous les gros syndicats ensemble, écoutez, on voit clairement que le gouvernement est hyper impopulaire, puis il cherche n'importe quelle façon justement de s'en sortir, puis on les laissera pas faire. Écoute, il y a des entités qui sont responsables de tenir ce genre de discours-là, puis ça s'appelle les partis de l'opposition, et ces députés-là sont élus. Mm-hmm. Vous autres, vous n'êtes pas élus. Vous représentez vos membres, et moi, j'ai l'impression qu'au fil du temps, ils ont perdu cette mission-là, que les gens que vous représentez, ce sont vos membres, point à la ligne, et non pas la population en général.
Je suis exactement au même endroit que toi. Si je viens de parler de deux crochets, ça va faire le pont à notre deuxième sujet également. Uppercut à nos médecins, encore une fois, durant ce discours-là. Et là, la fameuse étude du HEC que tu nous parlais sur le travail des médecins a été publiée lundi. Donc, parle-nous de cette étude-là aussi, de cet uppercut du gouvernement.
Bien, c'est ça. On a parlé, tu sais, les priorités du gouvernement, on en a assez parlé. Quand je parlais de la laïcité, c'était le côté identitaire. Quand je parle des syndicats, c'est le côté, justement, de faire le ménage de l'efficacité de l'État. Et dans les syndicats, inclus les syndicats de médecins. Et donc, le premier ministre, encore dans son discours hier, a répété qu'il ne reculerait pas sur son projet de loi visant à changer la façon dont les médecins sont payés. pour avoir un portrait plus juste de l'état de la situation. Je t'avais parlé la semaine dernière de l'étude du HEC qui date du printemps dernier. Et lundi, on a eu une mise à jour au fond de cette étude-là. Le HEC ont regardé leurs chiffres, ont fait des doubles vérifications. Je te rappelle que je t'avais dit qu'au fond, l'étude disait que de 2010 à 2022, il y avait eu des hausses très, très importantes en termes de salaire, des hausses aussi du nombre de médecins en termes de nombre.
Oui.
Mais le nombre d'heures travaillées par ces médecins-là avait diminué et l'offre de services médicaux également. Donc,
oui,
plus les Québécois payent pour les médecins, moins en ont pour leur argent.
Exactement. Et ce qu'on voit dans l'étude, c'est qu'un pourcentage de médecins, et là, j'y vais de mémoire, entre 15 à 20 % qui travaillent plus d'heures que prévu. Mais malheureusement, ouais, on est tout près du 30 % qui ne travaillent pas le nombre d'heures minimal. Fait que c'est ce qui vient débalancer cette courbe-là.
Exact. Puis c'est pour ça que ça explique un petit peu comment ça qu'on a l'impression que dans la population, le gouvernement et les syndicats tiennent deux discours complètement différents. Tu as vraiment un pourcentage d'à peu près, laisse-moi juste regarder, c'est un grand nombre de médecins qui offrent beaucoup de services à la population. C'est à peu près 21,6 %, donc un médecin sur cinq qui est un bourreau de travail. Mais également, à peu près dans les mêmes proportions, un médecin sur cinq qui a une pratique à faible intensité. Ça veut dire qu'il travaille, il prend plus que deux mois de congé par année ou deux mois qui ne travaille pas, qui n'offre pas de services médicaux. Et donc, cette mise à jour de l'étude vient dire que si on les faisait travailler à temps plein, ces médecins-là, s'ils travaillaient plus que 200 jours par année, on augmenterait de 1000 le nombre de médecins de famille à temps plein, de 1200 le nombre de médecins spécialistes à temps plein, et c'est donc l'équivalent de 2300 médecins qui s'ajouteraient à ceux qui travaillent déjà à temps plein. C'est une hausse de 15 % des médecins qui travaillent à temps plein au Québec. Ça permettrait aux Québécois de bénéficier de 6,2 millions de visites de plus auprès de leurs médecins chaque année.
Aïe. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que je me demande toujours, moi, pourquoi les gens à l'interne de la Fédération ne disent pas à ces médecins-là, hey, « Écoute, travaille plus parce que tu es en train de me coûter des indicateurs de performance, tu es en train de me coûter un projet de loi. » Pourquoi ils ne sont pas capables de régler ça à l'interne? Et là, là-dessus, je comprends qu'il va y avoir des cas d'exception. Marc Rangé, excellent chroniqueur syndical pour nous, nous disait, hey, « Moi, mon frère, il a 67 ans, travaille encore comme médecin, mais il sort d'une opération au cerveau. Fait qu'il prend juste la moitié de ses clientèles. Hey, ça, c'est-tu quoi? Merci de travailler encore à 67 ans malgré l'opération au cerveau, puis merci d'en prendre la moitié. Mais les médecins là, qui n'en prennent pas assez, là, pourquoi ça ne se règle pas à l'interne? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui leur dit « Hey, man, travaille plus, c'est en train de me mettre dans le trouble? »
On en a déjà parlé, Jeff, c'est les travailleurs autonomes. Tu comprends? C'est les travailleurs autonomes, ils déterminent leur horaire, ils déterminent leur intensité de pratique, ils déterminent dans quel endroit est-ce qu'ils pratiquent. Faut mentionner qu'il y a quand même une partie de ces médecins-là qui sont absents pour des raisons qui font du sens, le congé de maternité,
ben oui.
Les médecins en début ou en fin de carrière, justement. Tu parlais de ton médecin de 67 ans. Il y en a probablement plusieurs. En fait, ça le dit même dans l'étude que la majorité de ces médecins-là, ce 20 %-là qui travaillent moins, ben c'est des médecins qui travaillent en CLSC, mais surtout des médecins qui ont entre 55 et 64 ans. Fait que, tu sais, probablement que celui dont tu parlais fait partie de cette statistique-là. Après ça, ben, tu sais, c'est justement ça. Est-ce qu'on est prêt en tant que. Est-ce que devant les défis énormes qu'on a dans le réseau de la santé, on en est rendu à pousser vraiment ces médecins-là à la limite? Le gouvernement semble dire que oui. Ces médecins-là vont probablement dire « Écoute, moi, là, mon gars, là, j'en donne déjà plus que je pensais, puis je pourrais partir à la retraite demain matin, puis possiblement qu'il y en a qui vont le faire si jamais le gouvernement continue avec son projet de loi. Mais ça explique un petit peu, je trouve que ça donne un beau portrait de comment, tu sais, quand on écoute les deux côtés, comment ça se fait qu'on a l'impression qu'ils disent, les deux disent deux affaires complètement différentes. Bien, la vérité, c'est qu'effectivement, dans tous les médecins au Québec, t'en as qui sont des bourreau de travail, mais t'en as une proportion également, à peu près équivalente, qui ne travaille pas à temps plein.
Je termine là-dessus, Lambert. Est-ce que tu crois que la médiation qu'on a cette semaine va porter fruit et va permettre de mettre une trêve pour de réelles négociations?
Non.
Non, hein, moi non plus. On est trop écartés. Hein. Puis encore que François Legault les ait piqués dans le discours hier, j'ai dit... quelle mauvaise stratégie. On est en plein processus de négociation, puis Hawaï, on replante un clou.
Ben, Jeff, on vient d'en parler. Crochette droite, les islamistes radicaux, crochette gauche, les syndicats, uppercut,
les médecins.
Les médecins.
Et voilà. Voilà, c'est ce que François Legault a fait. Lambert Drainville, tu sais que c'est toujours un bonheur de te parler.
C'est vraiment chouette. J'ai beaucoup de plaisir avec vous.
Oh autres, oui. On se parle vendredi. Je sais que tu vas écouter le face-à-face demain sur nos ondes entre Sam Hamad et Bruno Marchand. Fait qu'on fait le tour de ça vendredi ensemble, c'est clair.
Ouais. Leadership Québec.
Ah, oh, je te promets, vendredi, on commence avec la chanson.
Décroger aux nations pour
salut, Lambert Drainville. Bye bye. Bye.